Une vie, une œuvre, Sam Ivel, 1907 Paris, 1992 Grenoble. Paul Gaëtan Crède, né à Paris, d'un père officier de cavalerie, emporté par une maladie respiratoire 3 mois avant sa naissance, et d'une mère qui le conduisit régulièrement respirer l'air de la montagne aux Contamines, dans les Alpes. Dans un vieux chalet de ce village, Luc Le Châtelier rencontre, le 3 août 1969, l'écrivain, aquarelliste, cinéaste, conférencier, explorateur et alpiniste. Il décrit dans Télérama, je cite, « un grand bonhomme costaud, la cigarette au bec et le poil noir sortant par l'échancrure de sa chemise ». C'est aux aventures de Monsieur Pickwick de Dickens qu'il a emprunté son pseudonyme, Sam Ivel. Parmi les livres qu'il a illustrés, Goupil, Le joueur de flûte de Hamelin, Samovar et Baculo, Bon voyage Monsieur Dumollet, ou Ayurpok et Ayungila, un conte esquimau, conçu à la suite d'une expédition polaire avec Paul-Émile Victor en 1948. Jean-Baptiste Fourré signe avec Assia Ralide Une vie, une œuvre, Sam Ivel.
Manche Tränen aus meinen Augen ist gefallen in den Schnee.
Dès que j'eus cessé de bouger, les rumeurs nocturnes se firent entendre. Car en pleine nature, souvent, le mot silence désigne moins une absence de son qu'une disposition nouvelle de l'esprit qui s'élève à un paroxysme d'attention. C'est alors que le silence, justement, se met à chatoyer.
Je n'aimais pas les grandes villes, ça n'y a pas de doute. J'ai toujours été assez malheureux. Je crois que je suis d'ailleurs un monstre à l'époque actuelle. J'aime la solitude. Et puis j'aime le silence. Et cependant, en tant qu'artiste, je dois admettre que les relations entre l'artiste et un grand nombre de gens qui communient dans les mêmes admirations est absolument indispensable. J'ai d'ailleurs essayé d'exprimer ça plus tard dans un dessin qui est apparu dans mon premier album qui s'appelait Sous l'œil des Choucas, où on voyait un alpiniste en montagne par un beau clair de lune quelque part sur le glacier d'Argentière et tout seul. La légende était « ce serait bien plus beau si je pouvais le dire à quelqu'un ».
C'était avant tout quelqu'un de passionné et de curieux de la spiritualité et de l'esprit et de la beauté.
Karel Prokop, réalisateur.
Par exemple, quand il dit que la beauté de la nature est une force où on puise la joie de vivre. C'est pas totalement la direction dans laquelle va la civilisation et la société aujourd'hui. Hein. Parce que Sam Ivel avait également, il avait une hantise des foules, des masses. Il adorait la solitude qui lui donnait une certaine dignité et qui lui permettait de communiquer vraiment profondément avec la nature et avec l'univers.
Sam Ivel ou l'enfance retrouvée, Jean-Baptiste Fourré, Assia Ralide.
Sam Ivel ne s'appelait pas évidemment Sam Ivel à l'origine.
Christophe Paget, conférencier.
Paul Gaëtan Crède pour son vrai nom et prénom. Il est né à Paris en 1907 et il a vécu à Paris jusqu'au début de la Première Guerre mondiale en 1914, les 7 premières années de sa vie. Dans un Paris qu'il décrit lui-même dans L'œil émerveillé, et qui est un Paris plein d'odeurs de crottins de cheval, beaucoup d'arbres, encore des moyens de transport traditionnels, et surtout dans l'adresse qu'il occupe avec sa maman, eh bien, au boulevard Suchet, il y a un parc, un jardin, plus peut-être qu'un parc, un jardin à l'anglaise, avec tout ce qu'il fallait, petit cours d'eau, qui lui permet de faire ses premières découvertes et ses premiers jeux d'enfant au contact avec la nature.
« Je suis né dans une très grande ville, assez vaste pour laisser subsister ici et là dans son enceinte, avec une sorte d'indifférence, des lambeaux de campagne. Nous habitions l'un de ces quartiers où les frondaisons et les toitures se partageaient équitablement l'espace, en sorte que les saisons, à bonne époque, y déroulaient encore leur mystère. Mon grand-père avait fait bâtir par là une demeure de style hollandais, tout en briques rouges, avec des arêtes hautes à degrés. Elle donnait sur les boulevards, les glaciers herbus des anciennes fortifications et les houles de verdure du bois. Une grille liéreuse, alignée sur d'autres grilles semblables, marquait les frontières de l'univers extérieur. La façade opposée avait un caractère plus intime. Par là s'étendait un jardin qui me parut longtemps le plus grand et le plus beau du monde. Et ce jardin était mon royaume. D'ailleurs, modèle réduit de la vaste terre, avec ses collines, ses futaies, ses jungles, sa grande prairie, ses fleuves et ses Himalayas. Du moins, il semblait tel à mes rêves, et je ne suis plus si sûr que de telles interprétations aient été vraiment fallacieuses. Cet incomparable jardin de mon enfance m'a donc inculqué une leçon essentielle, et beaucoup d'autres. C'est là que je me suis pris d'intérêt pour les brins d'herbe, le petit soleil des pâquerettes, les retraites et coutumes de messieurs les moineaux, le dessin des cailloux, les bulles d'air qu'égrenait le ruisseau et la danse de leurs reflets perlés, phosphorescents.
Samivel décrit une scène qui est restée une scène très importante dans son livre « L'œil émerveillé », qui est un chef-d'œuvre qui condense finalement toute sa vie d'explorateur, d'aventurier et de défenseur de la nature, d'observateur de la nature. Une feuille tombe, il prend la feuille, il est enfant.
Une feuille multiple, je m'en souviens, lâchée par l'aîné des marronniers. Elle ressemblait à un éventail baroque ou bien à un panache jusqu'au moment où j'y découvris 7 poissons accrochés à la même ligne et demeurai fasciné par le réseau des nervures symétriques, le dessin délicat des tissus végétaux. Cette perfection qui, de palier en palier, s'amenuisait jusqu'à des perspectives indistinctes, me comblait d'une joie singulière. C'était, après tout, si l'on y réfléchit, un message de l'infini à la portée d'un petit homme et dépourvu d'angoisse. En tout cas, la révélation de la fabuleuse prolifération des apparences.
Et alors là, je suis persuadé qu'il commence à revivre une expérience première.
Bernard Ami, chercheur, alpiniste et écrivain.
Qui lui vient des premiers âges de l'humanité, qui est l'expérience des premiers hommes qui ont commencé à essaimer sur la planète Terre. On passait un premier col, on passait une première crête, et on découvert devant eux une planète telle que nous, on ne la connaîtra jamais, vide de tout être humain. Et ça, c'est une expérience qui a été très, très, très forte, à la fois sur le plan émotionnel, aussi sur le plan physique, parce que ça a été très, très dur. Et il y a cette ambivalence qu'on retrouve dans le jardin. Le monde est totalement nouveau pour l'enfant, mais c'est aussi le monde de tous les dangers. Et c'est ça ensuite que va revivre l'alpiniste quand il va être dans sa haute montagne.
On n'oublie jamais ce genre de découvertes. Elles en suscitent d'autres, développent certaines capacités d'attention, confèrent à l'imagination une tournure heureuse, indiscutablement puisqu'elles rendent heureux. Une sorte de grâce tombée du ciel, le don des curiosités et des émerveillements. C'est l'apanage naturel de l'enfance, l'héritage de quelques rares adultes et le secret le plus profond des existences bien remplies.
Je pense qu'il a toujours cherché à expliquer cet émerveillement. Il l'a très bien décrit et je pense que tout simplement, il n'avait pas les outils dont on dispose aujourd'hui. Sciences cognitives, sciences du cerveau, imagerie médicale. Il lui manquait d'autres outils conceptuels. Pour expliquer ce mécanisme de l'émerveillement, il faut peut-être remonter un peu en amont et se souvenir que chacun de nous, à chaque instant, est le résultat d'un modelage qui a commencé dès notre conception, et qui est un triple modelage. Il y a tout ce que l'espèce humaine nous a légué via le mécanisme génétique. Ensuite, il y a tout ce que notre expérience à nous a fait que nous sommes ce que nous sommes et qui fait que chaque être est différent des autres. Et puis, il y a un troisième facteur qui est la culture. Et donc, c'est l'influence de votre groupe social. Ça fait trois choses qui se sont inscrites au tréfonds de toutes vos mémoires, là, et qui fait qu'à chaque fois que vous vivez une expérience forte, ça déclenche dans toute IC mémoire des mécanismes de réminiscence qui peuvent être associés à des émotions très fortes et que vous allez ressentir comme des émerveillements.
L'une des galaxies perdues dans l'univers. Parmi 300 millions d'astres sœurs, une étoile que l'espace et le temps ont prise dans leur toile et balancent au vent des orgueilleux déserts. Et sur ce globe étroit où respirent les mers, usant à l'infini des caps et des rivages, parmi 300 millions de plages, une plage où 1000 crabillons trottinent de travers. Un enfant en cueille un au hasard et puis compte 6 pattes très péniblement. Je vous prie de voir en ce compte le portrait d'un de nos savants.
Cette observation commence avec le jardin à Paris, mais cela constitue aussi les premières excursions et les premiers voyages, puisque sa maman l'emmène très tôt, dès ses 3 ans, notamment l'été, dans le Val-Montjoie, qu'il va connaître par cœur et par le cœur, pour reprendre sa formule. Là, il va découvrir, au Contamine, le contact avec une plus grande nature, une nature sauvage, véritable, c'est la montagne. C'est ce vaste monde qui va lui donner l'envie de le conquérir, puisque c'est un enfant qui va développer beaucoup d'aptitudes physiques, qui va se lancer dans des excursions, qui avait un véritable amour de la montagne et une véritable propension à la gravir.
À l'entour de 1914, je me trouvais alors, mes parents m'avaient emmené en Savoie.
Samivelle, France Culture, janvier 1960.
Après, ça a été, mes souvenirs sont plutôt alpestres. J'ai eu la chance d'être amené très tôt, très rapidement à la montagne. Évidemment, la montagne a joué un très grand rôle dans ma formation à la fois physique et intellectuelle. Sur le plan physique, je lui dois certainement la santé, parce que je me portais assez mal à Paris. Et sur le plan moral, esthétique, elle m'a littéralement formé. Je suis monté très tôt en montagne. Mes parents m'ont emmené dans une vallée qui est au pied du Mont Blanc. Je crois que j'avais 3 ans, vous voyez. J'ai commencé à faire des pâtés au pied du Mont Blanc. Et puis par la suite, j'ai commencé des petites promenades, des excursions. Et enfin, ça a été mon premier 3000, hein, aux alentours de 12 ans. Je me souviens d'impression, d'exaltation extraordinaire. Toute la nature alpestre me rentrait par tous les pores de la peau.
Je les connaissais par cœur, par le cœur, ces hameaux, ces forêts, ces alpes, ces cascades, ces pics, ces glaciers. Chaque arbre, chaque rocher ancrait en moi son propre fantôme. Et l'eau de ces torrents me coulait aussi à travers l'âme depuis des années. Cette clairière, où les mêmes mousses proliféraient au pied des mêmes sapins, j'y avais joué, très petit enfant, à l'ombre de ce rocher-là, non pas un autre, j'avais embrassé en tremblant ma première fille. Sur cette arête, pour la première fois, s'étaient entrebâillés devant moi les abîmes du doute et du vide. Sur cette cime, enfin, j'avais cru pour la première fois rencontrer l'ange. Dans une seconde ou deux, je vais recommencer à vieillir. Mais pour l'instant, je dérive sur le fleuve du temps, dans l'orbe de cette créature de feu. Il me suffirait de tourner la tête pour l'apercevoir, mais je ne tournerai pas la tête. Il me suffirait de tendre un peu l'oreille pour saisir ce que cette bouche de vent murmure au vent, mais À quoi bon ? Je connais maintenant la réponse des hauteurs.
Et puis ensuite, sa maman va faire construire un chalet au Contamine. Donc, c'est au Contamine qu'il va, et dans toute la vallée du Mont-Blanc, qu'il va véritablement s'aguerrir. Et c'est là aussi où sa maman lui offre une caméra, une petite Pâté Baby, à la fois aptitude sportive, mais aussi goût pour déjà filmer les choses, pour les transcrire et les rapporter.
Eh bien, j'ai donc commencé par des dessins humoristiques sur la montagne. Et j'ai eu la chance de tomber sur un sujet neuf. Si bien que, aussitôt que mes premiers dessins ont été publiés, ils ont attiré l'attention d'un certain nombre de gens. Évidemment, c'était un petit milieu à l'époque. Il y avait peut-être 20 000 personnes qui, en France, s'intéressaient vivement à la montagne. Mais enfin, ça a été un premier noyau de lecteurs. C'est comme ça que ça a commencé. Et puis, quelques temps après, une grosse maison d'édition, c'était de la Grave à l'époque, m'a demandé si je voulais réaliser des illustrations pour les enfants. Au premier abord, j'ai sauté en l'air. Vous savez ce que c'est qu'un adolescent, lorsqu'on lui propose de faire des choses pour les enfants, il se trouve insulté, indigné. C'était absurde, d'ailleurs, comme position. Mais je m'y suis mis. Et puis, il est sorti toute une série d'albums pour les enfants, dont j'ai écrit à la fois les textes, et donc j'ai réalisé l'illustration. Tout ça, ça s'est passé avant-guerre.
Même les grands-enfants de 10 à 80 ans.
Même les grands-enfants de 10 à 80 ans, parce que, enfin, je ne vous apprends pas que cette formule a été reprise abondamment par quelques confrères, mais c'est tout de même moi qui l'ai sorti aux alentours de 1935 ou 36, quelque chose comme ça. C'était en effet pour les enfants de 10 à 80 ans, car les textes que j'écrivais s'efforçaient de n'être pas puérils au sens péjoratif du terme. Il s'adressait à un public, au fond, sans âge, qui les avait tous.
Et dans ses dessins se peignent déjà les paradoxes de l'alpinisme, c'est-à-dire à la fois le côté très pur et la dénonciation d'un certain monde de l'alpinisme grandissant, avec la plupart des gens en montagne qui ne la respectent pas forcément. Donc il y a toujours des traits d'humour et des petits traits de dénonciation dans ses dessins. En tous les cas, ces dessins vont aboutir à un de ses premiers albums qui s'appellera « Sous l'œil des choucas », qui va être un album de dessins en noir et blanc, avec toujours des légendes très amusantes. Et cet album va connaître une première consécration de ses pairs alpinistes. Et puis ensuite s'en suivront un certain nombre d'albums. Il y en a un qui est très beau également, et toujours édité chez Delagrave, « Neige au pluriel », qui dresse un constat entre la neige telle qu'elle pouvait être crainte par les gens, synonyme de froid, de mort, de saison d'hiver, et la neige telle que Samivel la voyait, c'est-à-dire beaucoup de pureté, de très très beaux paysages complètement recouverts, de très belles planches avec toujours des légendes soigneusement choisies par l'auteur, notamment la forêt et les sortilèges par exemple, ou bien fantômes, où l'on voit des sapins ployants de neige comme des grands juges. La première fois que j'ai vu une aquarelle de lui, c'était une aquarelle reproduite en affiche et qui était une affiche pour le Jura. Or, il avait réussi à transcrire avec une palette de bleu très dégradé, de blanc et d'à peine quelques teintes de vert et de gris, en quatre échantillons de couleurs, il avait réussi à donner l'impression que les paysages du Jura donnent au spectateur. Et ça, chez Samivel, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il a une maîtrise de l'aquarelle très bonne. On a en deux couleurs peut-être et un certain nombre de fondus, une dilution extrême de son aquarelle, on a l'essentiel du dessin.
Il a déjà trouvé son style à cette époque.
Voilà, son style s'est affirmé, il plaît beaucoup, les aquarelles sont d'une extrême finesse et en tous les cas, il a à la fois les deux modes d'expression, la caricature et l'esthétisme pur. La caricature d'une certaine forme d'alpinisme qui est en train de naître, il commence à voir que les sports d'hiver prennent une importance grandissante, et il le dénonce avec beaucoup d'humour.
vers 1938, j'ai écrit mon premier livre.
France Culture, janvier 1971.
C'est-à-dire l'amateur d'abîme. Alors l'amateur d'abîme a été à l'époque salué par la presse comme une sorte de trois hommes dans un bateau de la montagne. C'était les aventures de trois jeunes gens, des aventures très gaies, très jeunes, très alertes, en montagne. Il ne s'agissait d'ailleurs pas d'exploits sensationnels. Non, c'était une montagne comme nous l'avons connue, nous autres, les vieux maintenant. C'est-à-dire une montagne accueillante, amicale.
C'est alors, monsieur, qu'il faut voir le funiculaire montant vers Mer de Glace aborder sa crémaillère. Les vaches défilent qui ne le regardent plus. Puis un tunnel se présente, un tunnel pour rire. Après quoi l'on change de sens et l'on reprend haleine un moment en contemplant au fond de la vallée les nuages aveuglants qui bourgeonnent au-dessus du col de Vosa. Puis la carcasse grise du glacier où scintillent les ruisselets. « La mer de glace !» murmure quelqu'un. Mot magique, le wagon sursaute. « La mer de glace ! Où donc ? Il faut voir, voir, en avoir pour son argent, que diable !» Bousculade, piétinement de panique, hérissement d'index, clameur d'enthousiasme. « Et le Mont Blanc ? Où est le Mont Blanc ? Montrez-nous le Mont Blanc !» Il y aurait péché à ne point alimenter ce beau feu. Nous y pourvoyons charitablement. « Parfaitement, le Mont Blanc, mais par ici, madame, et la Jungfrau, à côté, quant au Cervin, un peu sur la gauche, et allez donc !» Ô puissances insondables de l'imagination ! Mais c'est qu'il les voit maintenant, il les voit, vous dis-je, de leurs 40 pères dieux éblouis.
Dans l'amateur d'abîme, il y a de très 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 belles descriptions et un certain nombre de petits messages aussi dans certains chapitres, notamment où il fait l'apologie de la lenteur face à la rapidité du voyage, puisque nous sommes en 1940 et donc les sports d'hiver sont déjà très bien implantés dans les Alpes françaises. Et Samivel dit au lecteur, observez, prenez le temps d'observer, prenez le temps de gravir la montagne avec respect, humilité, avec poésie, c'est toute la poésie qu'il transcrit, justement, dans les descriptions de ces randonnées qui sont donc transcrites avec l'amateur d'abîme. Les albums jeunesse sont très importants puisqu'ils ont vraiment bercé toute une génération d'enfants entre les années 30 et encore aujourd'hui, puisque beaucoup d'enfants lisent les albums de Samivel qui sont encore réédités. Donc, dans ces albums jeunesse, eh bien, Samivel introduit des animaux, souvent, ou des personnages grotesques, fabuleux, aventuriers, explorateurs, bourgeois voulant conquérir la montagne, Monsieur Dumollet, par exemple. Et puis, dans les albums jeunesse, il faut citer aussi Goupil, Brun l'ours, Les malheurs d'Isengrin, donc tous ces albums où les animaux jouent aux mœurs des hommes. Et dans ces dessins, qui sont toujours des dessins très amusants, très ronds, avec des couleurs chatoyantes, eh bien on a un thème de prédilection pour la nature, mais aussi une petite réflexion philosophique qui va avec. Donc ces albums pour enfants ont véritablement bercé toute une génération. Ils sont connus, ils ont fait connaître Samivel auprès de la jeunesse, et il y en a un très beau, qui est aussi une belle fable écologique, entre guillemets, c'est Ayorpok et Ayungila, que Samivel écrit au retour de la première expédition polaire française au Groenland, avec donc Paul-Émile Victor, et il l'écrit pour les enfants, mais aussi pour les adultes, aussi pour faire prendre conscience qu'il y a une civilisation, la civilisation Eskimo, qu'on appelle aujourd'hui Inuit, qui est en train de mourir petit à petit, sous les chapes de modernité.
En 1948, il a fait partie de la première expédition polaire de Paul-Émile Victor.
Gilbert Mermoud.
Il est revenu avec pas mal de matériel, hein, de films, d'écrits, et entre autres, du conte Ayorpok et Swingila. Et dans ce conte, en face de chaque page écrite, il y a une aquarelle. Bon, eh bien, on voit dans certaines pages l'ours blanc qui transpire sur un petit morceau de, un petit glaçon, parce que l'iceberg, la banquise a fondu, et d'autres aquarelles comme ça, où on voit les, tous les animaux polaires qui se retrouvent coincés sur le même iceberg, qui dérive là et qui est devenu tout petit. Et dans ce même conte, on imagine le dialogue entre un phoque et les Groenlandais sur la berge.
Silap Inua habitait en haut tout seul. Comme il s'ennuyait un peu, vous comprenez, tellement tout seul, tellement en haut, il décida de s'amuser à fabriquer des choses. Ainsi, il fabriqua des tas de choses. Par exemple, des boules, des petites et des grosses. Et il souffla dessus pour les éparpiller dans l'espace. Cela fit les étoiles, les soleils, les soucoupes volantes et le reste. Puis il rattrapa l'une de ses boules et il la mit tout à fait contre son œil pour mieux voir et s'en occupa très spécialement. Il tira par-ci, par-là et il y eut des montagnes. Il creusa des trous avec son pouce et y versa une toute nouvelle invention. C'était de l'eau et il y eut des océans. Après, il planta dessus des arbres, des fleurs, des diplodocus, des escargots, des cochons d'Inde, etc., etc., et il agita le tout avant de s'en servir. Bon. Ensuite, il fit un petit somme, et en se réveillant, il regarda de nouveau et vit qu'il y avait encore pas mal de place libre dans un coin de la boule, si j'ose dire. Aussi, il se mit à mordiller son ongle, exactement comme vous faites quand il y a un problème d'arithmétique qui ne marche pas, et à la fin, il lui vint une idée. « Je vais faire une contrée géographique entièrement différente de tout le reste, juste le contraire de tout le reste. » Il se mit immédiatement au travail. Pour commencer, il mélangea toutes les couleurs dans un pot. Cela fit du blanc. Puis il souffla à la surface de la mer et tout devint dur et blanc et brillant. Ensuite, il resta un bon moment à souffler, un autre souffle dans ses doigts, parce qu'il avait inventé le froid sans faire exprès. Après quoi il regarda attentivement et fut émerveillé, tellement c'était propre, lisse et brillant. Après quoi, il éternua.
Après la guerre, j'étais tenaillé par un vieux démon qui est celui de l'aventure et du voyage. Et j'ai rencontré Paul-Émile Victor. Et Victor m'a proposé de partir avec lui dès 48 en expédition de reconnaissance au Groenland. C'était la première des expéditions françaises au Groenland. Inutile de vous dire que ce sont des propositions qu'on accepte avec enthousiasme. Et je suis parti donc au Groenland en 1948. À la fois comme cinéaste et comme envoyé spécial des nouvelles littéraires. La qualification de cinéaste vous étonnera peut-être, mais en fait, je m'étais toujours vivement intéressé au cinéma. En tant que j'avais fait beaucoup de cinéma d'amateur, autrefois, je suis même l'auteur, je crois, du premier grand film français sur le ski, réalisé aux alentours de 1933, et qui s'appelait modestement « L'art du ski ». Ça durait 1h10 en 9 mm, bien entendu.
Et puis après ça, vous avez, il y a eu donc de nombreux films réalisés, on ne peut pas tous les citer.
Alors après ça, eh bien, cette expédition au Groenland m'a donné le pied à l'étrier des grands voyages et je n'ai plus cessé depuis cette époque d'accomplir, sinon des explorations, c'est un terme que je ne revendique pas parce que c'est beaucoup plus modeste, mais enfin tout au moins de grands voyages d'où je rapportais à la fois des films et des livres.
Samivel fera trois films, le film de l'expédition, Printemps arctique et Les hommes du phoque, qui est un hommage au peuple inuit. En tous les cas, ces trois films seront complétés par un autre, Groenland, puisque c'est au cours de ce voyage que Samivel tombe amoureux de cette île du Groenland, tombe amoureux de ses paysages. Il ramènera de très belles aquarelles de ce voyage.
Le monde des icebergs est un monde absolument prodigieux sur le plan esthétique, aussi bien couleur que forme. C'est l'univers surréaliste réalisé avant la lettre, si j'ose dire, par la nature elle-même. C'est vraiment sensationnel et inoubliable. Ajoutez à cela, je ne dirais pas le silence, car il y a des bruits dans cette mer couverte d'icebergs. Je me souviens de mon étonnement d'avoir entendu, par exemple, de véritables coups de pistolet qui sortaient de la mer. De quoi s'agissait-il ? Eh bien, c'était des petits glaçons qui libéraient des bulles d'air. C'est inattendu.
Et lorsqu'un journaliste lui demandait « Samivel, le Groenland, c'est un Éden en somme ?» Samivel répondait « Presque, en tous les cas, c'est un pays apte à montrer la grande misère du civilisé. » Donc, se dégage avec ce voyage au Groenland l'intérêt qu'il porte aux civilisations anciennes et aux peuples traditionnels du monde.
Je lui ai demandé pourquoi il s'est intéressé aux civilisations et cultures tellement différentes que l'Égypte et les Vikings, ou la Scandinavie, disons le monde viking. Et en fait, pour lui, notre civilisation occidentale repose sur trois piliers, le pilier grec, le pilier égyptien et le pilier viking. Et finalement, la convergence de ces influences fait ce qui est devenu la civilisation ou la culture occidentale. Et je trouve ça très juste et c'est très pertinent. Mais il ne le cherchait pas dans les détails comme le font les chercheurs classiques, les historiens, mais à travers justement des mythes. Et c'est ce qu'il appelait faire de la géographie ou de l'histoire mythologique, parce que il expliquait en fait le fonctionnement du monde par les mythes et par la spiritualité des hommes.
Ce qui réunit ces trois albums, L'or de l'Islande, Le soleil se lève en Grèce, Trésor de l'Égypte et Soleil en Provence, c'est la volonté pour Samivel d'être le témoin d'une production artistique singulière entre la Grèce antique, l'Égypte également, et les très belles pièces contenues dans l'art islandais, dans l'art viking, puisque tous ces albums réunissent un cahier photographique important avec de très belles photos. Samivel en produisait certaines et il s'entourait également de photographes pour d'autres. En tous les cas, ces albums sont à la fois un témoignage d'une civilisation, d'un art et du rapport privilégié que cette civilisation a entretenu avec sa nature respective.
Alors donc on monte. Il y a une chose qui est très belle ici, je trouve, ce sont toutes les ferrures. Ce chalet a été construit comme les refuges de montagne de cette époque-là, des années 20. Et les ferrures, les clenches sont très en fer forgé, avec une poignée en fer également, toute noire. Et puis juste un petit bec qui se lève. Voilà, comment on peut servir.
Béatrice Dubois.
Alors nous sommes ici dans le bureau de Samivel, ce qui était son bureau, devant cette petite fenêtre rectangulaire. Son bureau était là et c'était là qu'il écrivait. Ou qu'il peignait, ou qu'il réfléchissait en regardant l'aiguille de Roselette, la Pena et tout le fond de vallée. Moi, j'ai connu Sam Ivel il y a fort longtemps parce que mon père avait fait de la montagne avec lui. Il se connaissait bien. Et nous avions un chalet qui était situé tout près de celui de Sam Ivel. Et Sam Ivel venait de temps en temps à la maison raconter des tas d'histoires que j'écoutais avec avidité.
Ah, Sam Ivel ! Sam Ivel, c'était un poème. C'était un ronchon. Il était, moi, on s'est super bien entendu avec Sam Ivel.
Antoine de Maximi.
Parce que justement, il était tout le temps en train de ronchonner et moi, il me faisait rire. Donc, il râlait et moi, je rigolais à côté. Et en fait, lui, ça le désamorçait. Bah, du coup, il avait envie de rire. De toute façon, moi, j'aime ces mecs-là. Je veux dire, ces gens qui ont une personnalité avec des contradictions et parfois un caractère de cochon et tout, c'est des gens qui sont très souvent plus intéressants que les autres, que ceux qui sont lisses. Moi, il me faisait rigoler, Sam Ivel, parce que déjà, il avait deux appareils amplificateurs dans les oreilles parce qu'il devait commencer à devenir sourd. Alors, il y avait deux cas de figure. Quand il avait mis trop fort le niveau, ça se mettait à siffler. Mais tu l'entendais à 2 mètres. Mais lui, il l'entendait pas du tout. Alors, t'as Sam Ivel qui arrivait, tu l'entendais, avant de le voir, limite, t'entendais siffler. Donc ça, c'était drôle. Et puis aussi, quand quelqu'un l'emmerdait, qu'il avait pas envie de discuter avec cette personne, il coupait. Et comme il me l'avait dit, moi, je le voyais faire. Donc il coupait, et puis, du coup, il sortait de la conversation assez vite, puisqu'il répondait pas, que ça me faisait hurler de rire, quoi.
Ben, moi, Sam Ivel, c'est un personnage pour moi.
Philippe Gier, photographe.
Comment est arrivé là? Notre collaboration, c'est parce que il rentre dans mon magasin qui était là, il souhaitait que ma femme qui tenait le magasin lui vende une pellicule. Et puis moi, j'étais pas dans le magasin, mais j'ai entendu une voix que je connaissais de lui, et puis ma femme qui disait merci, monsieur Sam Ivel, où je me suis précipité, et je lui dis, vous êtes Sam Ivel? Ouais. Il n'était pas aimable du tout, hein. C'était un monsieur très sérieux. Ben, je lui dis, si vous permettez, je voudrais faire une photo de vous. Alors ça l'a un peu réveillé. Il m'a dit, si vous voulez. Et ben, je dis, on y va. On est passé de l'autre côté de la cloison. C'était ma salle à manger. Je l'ai mis devant la porte. Et puis, j'ai fait la photo qui a traîné partout pendant des années. Moi, j'avais un style à moi. Alors, lui, il faisait des photos. Alors, ça ne m'a pas gêné. Il acceptait que ce soit moi qui prenne la direction des opérations. Je lui ai dit, je vous mets devant la porte, vous vous mettez comme ça. Il me dit, je me mets comme vous voulez. Il a voulu fumer, je lui ai dit, je vois pas l'inconvénient. Vous vous asseyez, vous me regardez, et plaf, j'ai fait mon image.
Et alors, vous dites qu'il n'était pas aimable.
C'était pas le gars le souriant, comme on peut dire. Ah non, il ne faisait pas d'effort. Hein.
À quoi vous attribuez cette froideur?
Oh ben, à son tempérament, hein, parce qu'il était un conférencier extrêmement sérieux. Moi, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré, parce que c'est un personnage d'une culture extraordinaire. C'est quand même un homme des villes, qui a beaucoup voyagé, qui était conférencier, et il avait ce prestige, parce qu'il amenait du savoir aux gens. Là, quand j'ai fait cette photo, sa prestance, c'est pas moi qui lui ai dit.
On peut aller voir le jardin un petit peu?
Oui. Moi, j'ai un souvenir ici, c'est que quelqu'un avait offert à Sam Ivel une barrière pour fermer le jardin tout au bout. Et il n'aimait pas les barrières, alors il les a laissées dans la cave. Nous allons aller voir le ruisseau, parce que le jardin est traversé par un petit ruisseau. Voilà, c'est un bruit qui nous enchante tout le temps, c'est magnifique cette tempête. Thank you.
Est-ce que l'on peut dire que vous êtes un écologiste? Est-ce que ça a un sens, ce terme, pour vous?
Oui, certainement.
France Culture, janvier 1985.
La défense de la nature, les rapports de l'homme et de la nature, c'est un des sujets qui m'ont le plus particulièrement intéressé. Et à ce titre, d'ailleurs, je me suis beaucoup occupé de la fondation du Parc National de la Vanoise. J'étais faisais partie de tous ces petits groupes qui a commencé à s'en inquiéter. J'ai moi-même eu l'occasion de dessiner la fiche du parc, de dessiner les médailles des gardes du parc, d'écrire les commandements du parc de la Vanoise, qui sous une forme aussi précise que possible et un peu comme des slogans de publicité s'adressent aux futurs visiteurs du parc et leur recommandent de faire ci ou de ne pas faire ça.
Est-il vrai qu'avant même la guerre, vous étiez un des seuls à demander la création de parcs nationaux et protection des animaux, de la nature?
Au milieu de l'indifférence générale d'ailleurs, et où quelquefois des ricanements. Mais en fait, le but fondamental de ces parcs, c'est la défense de la vie avec un grand V, parce que cette vie, elle est menacée.
10 commandements de la montagne. 1. Lire, marcher, grimper, apprendre le métier. 2. S'équiper comme il faut et former bonne équipe.
Ici commence la liberté de bien se conduire. Voici l'espace, voici l'air pur. Voici le silence.
3. S'entraîner peu à peu, ne pas courir la poste.
Tout ce qui vous manque dans les villes est ici préservé pour votre joie.
4. Respecter la nature, le silence et les gens. 5. Laissez en paix les bêtes et le refuge propre.
Enterrez vos soucis et emmenez vos boîtes de conserve, les papiers gras ou les cartes de visite des mufles.
6. Ne pas vouloir monter plus haut que sa culotte. 7. S'engager sans compter sur l'hélico sauveur.
Ouvrez vos yeux et vos oreilles, fermez vos transistors, pas de bruit de moteur inutile, pas de klaxon. Écoutez les musiques de la montagne. Récoltez de beaux souvenirs, mais ne cueillez pas de fleurs.
8. Descendre sans tarder si le temps se détraque. 9. Être serviable, aider les copains dans l'ennui.
Oiseaux, chevreuils, lapins, chamois, déclarez la paix aux animaux timides. Ne les troublez pas dans leurs affaires, afin que les printemps futurs réjouissent encore vos enfants.
10. Admirez, retenir la leçon des montagnes.
On a tendance, puisque nous parlons d'écologie, d'environnement, à considérer qu'il s'agit d'une question d'actualité. C'est absolument faux. C'est un problème de plus en plus instant pour l'espèce bipède à la surface de sa planète.
France Culture, janvier 1975.
Si ce problème n'est pas envisagé dans sa gravité, nous sommes menacés certainement des plus grandes catastrophes et dans un délai extrêmement bref. Enfin, je ne voudrais pas avoir l'air d'être un prophète de malheur, mais malheureusement, à première vue, c'est bien comme ça que l'avenir se dessine si le bipède, l'homme, ne se reprend pas et ne considère pas que la Terre, c'est après tout essentiellement son domaine, son grand jardin, et que s'il ne le préserve pas contre les atteintes des destructions de toute espèce, eh bien, non seulement la Terre périra, mais lui-même et la vie, parce que c'est lui qui payera la note.
Les gens, pour vivre, ont besoin d'une maison. Pas seulement celle édifiée pour abriter les corps, mais l'autre, l'invisible, où les pensées, les cœurs se tiennent au chaud. Quand une brèche s'ouvre dans les murs de cette maison-là, l'angoisse entre en sifflant, et les âmes sont mal à l'aise. À Saint-Béat, on n'était pas mieux doué qu'ailleurs pour voir au-delà de son propre nez. Les ventes de terrain, les projets de la fameuse société entraînaient des conséquences prévisibles, mais que personne n'avait prévues. D'abord, l'abandon de vastes espaces pacables perturbait une économie millénaire. Les prés fournissaient le foin, et le foin nourrissait le bétail, circuit primitif, inéluctable. Ayant engrangé au précédent automne, les montagnards passèrent l'hiver comme de coutume. Ensuite, les troupeaux allaient à l'alpage. Mais quand l'été fut écoulé, beaucoup de familles s'avisèrent avec effroi du vide de leur fenil. Alors il fallait vendre. La foire de Villeneuve se tenait dans la deuxième quinzaine d'octobre. Elle fut submergée par une descente en masse du cheptel béatin. Les prix s'effondrèrent, tandis que les maquignons et les bouchers s'en donnaient à cœur joie. Une catastrophe pour les petits éleveurs du pays. Pour consolation, ils eurent encore à s'expliquer avec leurs épouses furieuses. Ils n'avaient pas prévu non plus la marée de matériel et d'hommes qui envahit en sens inverse leur propre vallée. Ayant eux-mêmes introduit le cheval de Troie dans la cité, ils se trouvèrent quinaux. 250 étrangers, parmi lesquels de nombreux piémontais, détestés bien entendu, étant les plus proches voisins.
Le personnage central du livre, qui se dégage peu à peu, et qu'on appellera ultérieurement le fou d'Edenberg, eh bien, c'est un montagnard.
France Culture, 27 décembre 1967.
Il aime sa vallée, il aime sa maison. Ce n'est pas l'instinct de propriété qui joue chez lui, c'est quelque chose de plus subtil. Cette maison, ce seuil, ces poutres, il les porte en lui. Ce n'est pas extérieur à lui-même. Et le priver de ses biens essentiels, c'est le tuer à moitié.
C'est ça.
Or, il se trouve que pour des raisons techniques, on doit piquer un pylône de téléphérique exactement à l'endroit où s'est édifiée depuis des siècles cette maison familiale. Alors, le drame éclate. Cet homme ne peut pas céder. Et c'est au nom de quelque chose d'absolument essentiel qu'il va entreprendre une lutte, d'ailleurs, à première vue, sans
désespérée.
Désespérée, sans espoir. Mais il est tellement pur, ce Siméon Icare, est tellement innocent, qu'il estime qu'il mène une lutte dont il doit sortir vainqueur. Et d'ailleurs, le livre ne s'achève pas,
oui, c'est cela que j'allais vous dire.
Forcément, par une défaite, il se passe autre chose. Le livre, dans sa deuxième partie, prend la tournure d'une épopée panthéistique. Et c'est Siméon Icare qui incarne ses forces en rébellion contre une agression brutale, aveugle et, je dirais même, inintelligente des techniques et de l'argent.
C'est quelqu'un qui a marqué le monde de la montagne. Moi, j'en suis persuadée, à l'époque, à sa façon. Il a façonné notre vision dans toutes les Alpes et les Pyrénées aussi. Bien sûr, il a joué un rôle important pour des gens qui n'avaient jamais fait d'alpinisme et qui, tout d'un coup, se sont découverts, en lisant, par exemple, L'amateur d'abîme, se sont découverts, une attirance pour l'alpinisme. Je pense qu'il a fait naître des vocations.
Il s'est fait connaître à une époque qui était la grande époque Cousteau, Paul-Émile Victor, Taziev, Rebuffat. Chacun s'est fait connaître dans un domaine particulier. Qu'est-ce qui a fait que ça a pris pour tous ces personnages-là? Ben, c'était qu'ils ont su être des personnages médiatiques. Et je pense que Samivel a très bien perçu qu'il n'a pas su entrer dans le petit cercle fermé là, des grands explorateurs connus.
C'était un regret pour lui?
Je ne sais pas.
Vous n'avez pas perçu de frustration chez lui?
Non, parce que je pense qu'il avait tout de même une belle notoriété. Même les jeunes grimpeurs d'aujourd'hui connaissent le nom de Samivel. Non, je pense qu'il avait toutes les raisons d'être satisfait de lui. Voilà.
Il y eut encore un mètre franchi, un mètre décisif. Avant, il traînait derrière lui un faisceau de câbles invisibles qui le rattachait au monde étrange où les mots « dynamo »,« journal »,« rouge à lèvres » signifient quelque chose. Mais d'un coup, les amarres trop tendues cédèrent, reculèrent dans un lointain inaccessible. Comme l'instant solennel d'une nouvelle naissance, la rupture d'un nouveau cordon ombilical. Il se perçut libre, sans passé, sans présent, sans avenir. C'est à cet instant précis que ses pieds commencèrent à geler. Et tout devint prodigieusement facile. Oui, soudain, l'abîme, la pente, l'altitude, le froid, le vent, son propre corps cessèrent de compter. Et toute douleur s'était évanouie. L'homme, ses expériences d'homme, Ses déceptions, ses haines, ses ambitions, ses amours, ses appétits, ses rides furent abandonnés en tas vers l'altitude 8000. Et il resta l'enfant, l'être qu'il avait été, que nous avons tous été vers 5 ans, celui qui jouait avec le monde et que le monde n'osait tromper. Et devant cet enfant, sans mémoire et sans crainte, toutes choses s'aplanirent, furent aplanies au vrai sens du mot. Il vint une déchirure de bleu, la dernière, ou la première, comme on voudra. La cime se dévoila enfin pour quelques lambeaux de seconde. Et voici que le Dieu venait à sa rencontre.
Je pense que celui qui est en très haute altitude dans la situation qui est décrite dans cette nouvelle de Samuel, c'est-à-dire qu'en fait, il est en train de mourir. Il sait que c'est la fin, il sait qu'il ne va pas pouvoir descendre, et il est tout à coup plongé dans une sorte d'illumination totale. Alors là, je pense qu'il y a une double expérience cognitive. La première, c'est cette expérience qui a, depuis des millénaires, été décrite dans tous les livres des morts tibétains, des livres des morts égyptiens, enfin, etc. C'est toujours la même expérience avec le tunnel lumineux, le sentiment de libération, le fait qu'on va retrouver les êtres chers qu'on avait perdus. Enfin, bon, c'est toujours les mêmes sensations. Il se trouve qu'on sait aujourd'hui, au niveau neurologique, ce qui se passe dans le cerveau au moment où on commence à mourir. Il se passe des activations cérébrales qui commencent en particulier, peut-être parce que l'homme est un animal, il est d'abord visuel, et c'est les aires visuelles qui d'un coup prennent des flashs, comme ça. Et il y a cette impression du tunnel lumineux, de l'éclair de lumière qui apparaît. Il y a tous les souvenirs qui, en fait, remontent des zones de la mémoire. Et tout ça peut être très, très rapide. Parce que ce qui se passe, c'est que en même temps, alors ça, c'est une théorie et que j'ai entendue, je ne sais pas du tout si elle est vérifiée, votre horloge interne commence à entrer en hypoxie, c'est-à-dire qu'il y a moins d'oxygène. Donc, en fait, elle ralentit et le temps s'étire comme ça. Et donc, c'est cette impression de éternité. Et comme, en fait, et vous ne savez pas, au moment où l'horloge y s'arrête, vous ne savez pas qu'elle s'arrête. Donc, c'est comme si vous viviez une éternité. Bon. En même temps, il se passe autre chose, et c'est ce qui se passe dans les états d'illumination mystique. Vous savez que on a fait des expériences, le Dalai Lama a accepté qu'il y ait des moines bouddhistes qui viennent se mettre en état de méditation intense sous IRM. Et donc, on est allé voir ce qui se passe dans leur cerveau. Donc, on sait maintenant qu'il y a une petite zone du cerveau qui, sans cesse, fait le tri entre les données qui viennent de l'extérieur et les données qui viennent de l'intérieur. Et c'est grâce à cette zone que peu à peu, tout au long de votre existence, vous y construisez votre moi. Quand les moines se mettent en état de méditation intense, comme ça, on s'est aperçu que cette petite zone se met en sommeil. Et donc votre cerveau ne sait plus faire la différence entre ce qui vient de l'intérieur et ce qui vient de l'extérieur. Et c'est exactement ce que décrivent tous les grands mystiques. C'est la fusion dans l'univers, l'entrée de l'univers en soi. Et je pense que au moment où le héros de Samivel commence vraiment à entrer dans la mort, là, enfin, à entrer dans le mourir, hein, parce qu'en fait, il n'entre pas dans la mort, il entre dans le fait qu'il va mourir. Voilà. Cette ouverture est totale sur le monde. C'est-à-dire qu'il ne fait plus qu'un avec le monde.
Personne à présent ne s'étonnera d'apprendre que ce jardin magique, comme tant d'autres, s'est effondré pour finir sous les coups de boutoir d'un bulldozer. Un immeuble de bon standing y occupe désormais la place et s'enorgueillit d'une cour intérieure en béton. J'y pénétrai un jour avec prudence. Mais rien dans ce nouvel équarrissage de l'espace ne suscitait le moindre souvenir. J'y étais devenu l'étranger, un étranger qui s'en retournait d'un pas hésitant sous le regard déjà soupçonneux du concierge, quand un ultime coup d'œil me figea sur place. Il restait un vestige du royaume. Une tige de lilas était parvenue à s'insinuer entre deux boucliers de ciment, unique et lointain rejet des petites jungles d'autrefois. Cela suffit pour tout déclencher. Soudain, le jardin perdu se reconstitua dans ma mémoire à une vitesse folle, beaucoup plus réelle que l'insolente réalité qui s'effaça dans un brouillard et retourna son chaos, net, complet dans tous les détails, avec le majestueux bouquet de marronniers, la conque herbue, ses parfums, son ménage de merles, le ruisseau, les libellules, le clapotis discret de la cascade et le crissement de l'allée gravière sous des pas invisibles. Je compris qu'une frontière du temps venait d'être franchie sans encombre, que le jardin et moi nous étions définitivement retrouvés. Il avait émigré dans cet espace intérieur où ce que l'on n'a jamais cessé d'aimer échappe désormais à toute atteinte.
C'était Une vie, une œuvre, Samivel ou l'enfance retrouvée, avec Bernard Ami, Antoine de Maximy, Bernard et Béatrice Dubois, Philippe Gier, Gilberte Mermoux, Christophe Paget, Karel Prokop. Un grand merci à Guylaine Nové-Josserand, Basile Dunan, Paul Gaillet, Felipe Gaillot, ainsi qu'à Sœur Marie-Claude. Archivina, Christelle Rousseau et Gwen Michel. Marc-Henri Boisse lisait des extraits de « L'œil émerveillé »,« Six pattes »,« La réponse des hauteurs »,« L'amateur d'abîmes »,« Ailleurs Poc »,« Le fou d'Edenberg » et « Demeure des dieux ». Prise de son, Jean-Louis Deloncle et Alain Joubert. Mixage, Claire Levasseur. Coordination, Irène Omelianenko, assistée de Claire Poinsignon. Réalisation, Asia Khalid. Un documentaire de Jean-Baptiste Fourré.
Barfuß auf dem Eise wankt er hin und her. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Keiner mag ihn hören. Keiner sieht ihn an. Und die Hunde knurren um den alten Mann. Und er lässt es gehen. Alles wie es will. Dreht und seine Leier steht ihm nimmer still.
Cette émission est disponible en podcast et réécoute sur le site de France Culture. Dans quelques instants, ce sera le temps des écrivains. Et samedi prochain, à 16h, Une vie, une œuvre est consacrée à l'écrivain congolais Sonny Laboutansi.